Le débat de midi, Thomas Chauvineau.
Le débat de midi consacré aujourd'hui aux super-héros avec quelques messages qui nous arrivent sur Twitter. Le débat de midi qui aujourd'hui parle de super-héros, je sens que ça va être douloureux. Je ne comprends pas tout à fait la teneur du message, mais si on peut continuer à l'expliquer. Trois invités pour parler aujourd'hui des super-héros et de l'importance qu'ils continuent à avoir en 2014. Xavier Fournier, le rédacteur en chef du magazine Comics Box, Thierry Rogel, l'auteur de Sociologie des super-héros, et Olivier Delcroix, auteur, lui, d'une encyclopédie, Les super-héros au cinéma. Alors, on connaît bien hein, l'histoire des super-héros, Superman créé en 38 face à la crise. Alors, pourquoi, alors qu'aujourd'hui, en 2014, on est toujours face à la crise, on recycle finalement les mêmes super-héros et on ne décide pas d'en créer de nouveaux, Thierry Rogel?
Oui, alors pourquoi?
Il faut bien commencer par
Il
une
faut
question.
Bien commencer par ça. Oui, merci. Si on commence par ça, je pense qu'on fausse un tout petit peu parce qu'on met à la base l'idée qu'il y aura un lien quasi automatique avec la crise, parce qu'on prend deux périodes. Or, la plupart des super-héros qui ont du succès aujourd'hui sont issus des années 60. Si on exclut Superman, Batman, qui sont quand même importants, mais tous les autres, Spider-Man, Iron Man, c'est les années 60. Et les années 60, ce n'était pas une période de crise, en tout cas pas économique. Ce qui veut dire qu'il faut, si on... Il y avait une période d'engouement, pas en Europe, mais aux États-Unis. Et si on veut comprendre cet engouement des super-héros, je pense qu'il faut aussi expliquer cet engouement à cette époque-là. Et je crois, alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus vaste, c'est probablement parce que la figure du super-héros est une figure qui peut s'adapter à un grand nombre d'interrogations différentes, qui peuvent être des interrogations face à la crise, effectivement, qui peuvent être aussi des interrogations face aux transformations sociétales dans une période de croissance et de transformation sociale.
La vraie différence entre les années 40 et les années 60, c'est que dans les années 40, les super-héros deviennent super-héros grâce à la science, un Captain America qui en injecte un produit pour qu'il devienne très très fort, alors que dans les années 60, c'est l'accident, c'est Spider-Man qui se fait piquer par une araignée. Olivier Delcroix.
C'est une araignée radioactive, donc on reste quand même dans le domaine de la science. Par rapport à l'idée de...
Avec la peur de l'accident, tout de même.
Avec la peur de l'accident, voilà. Mais néanmoins, moi, ce qui m'intéresse dans la figure du super-héros, c'est qu'elle renvoie à la figure du héros, et plus exactement à la figure de l'héroïsme. L'héroïsme, en fait, il vient de l'Occident, il vient de chez nous, quand même, parce que finalement, au Moyen-Âge, le héros apparaît dans la chanson de geste, la chanson de Roland, donc ses vertus frôlent le grandiose, c'est un surhomme, et on s'aperçoit quand même qu'on a besoin d'héros, on a besoin de s'identifier à un héros lorsque la nation est en danger. C'est ce qu'on voit très bien, en fait, dès que, par exemple, le 11 septembre vient ébranler la nation américaine, tout d'un coup, une espèce de regain total du super-héros, et jusqu'en 2012 où on voit Avengers et ce film extraordinaire qui mélange en fait une famille de super-héros, a fait plus +1,4 milliard à travers le monde, et le personnage qui guide ces héros, c'est un personnage qui est donc le patron du Shield et qui normalement est d'origine italienne, et là qui, comme par hasard, est interprété par un black qui fait figure d'Obama. Donc il y a quelque chose de très patriotique dans les super-héros. Il ne faut pas se voiler la face. Superman, Wonder Woman et autres grands personnages comme ça ont des bannières étoilées en guise de costume.
Dans ce cas, comment vous expliquez l'engouement en France ?
Mais en fait, le super-héros a une valeur unificatrice. C'est celui qui a, quelque part, un code moral, des capacités extraordinaires, des super-pouvoirs, un équipement exceptionnel, un peu comme Batman qui n'a pas de super-pouvoir et qui donc forcément, lui, s'invente tout un tas d'équipements, la Batmobile, la Batcave, des filins, etc. Il a une double identité aussi, hein, car c'est un justicier masqué. Et puis ce fameux costume ridicule en couleur flashy, voilà. Donc tous ces critères font que les enfants, les ados ont envie de s'identifier. C'est l'éternel viatique du super-héros qui donne envie de s'identifier à lui, parce que comme ça il permet à celui qui le lit, le petit lecteur des comic books, et puis ensuite celui qui va au cinéma, ça lui permet de s'évader et de surpasser ses défauts, ses manques, ses peurs, etc. C'est le principe même qu'avait inventé Homère avec Ulysse au début de notre ère. Hein. C'est le début du roman. Le personnage du héros est un personnage fondateur, à la fois au niveau de la nation, puisqu'il est la figure du héros et la fabrique des héros est nationale, et puis aussi au niveau romanesque, puisqu'elle permet comme ça de dépasser ses peurs. C'est ce qu'on voit par exemple dans Spider-Man en 2002. Le personnage de Peter Parker, qui est un pauvre étudiant qui est la risée de toute sa classe, une fois qu'il a été piqué par une araignée, va devenir un surhomme. Hein, donc, et quand il fait gicler sa toile dans sa chambre, en fait, on assiste ni plus ni moins qu'au passage de la puberté. Dans le film de Sam Raimi en 2002, c'est très clairement dit.
C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans votre encyclopédie, c'est que là, on a un garçon qui découvre plus qu'une toile qu'on peut faire sortir de ses poignets.
Exactement, la toile qui sort des poignets, c'est ni plus ni moins qu'une version idéalisée et puis en fait métaphorique de la masturbation, bien évidemment.
Vous parlez de la différence entre héros et super-héros. Xavier Fournier, il y a une différence qui est assez fondamentale. C'est que Ulysse, par exemple, n'avançait pas masqué, alors que le super-héros, lui, est masqué.
Oui, d'ailleurs, moi, j'ai une opinion un peu différente de ce qui vient d'être dit. Effectivement, un Captain America, je vais pas nier qu'il y a une dimension patriotique dans Captain America. Superman a chic pour prendre la pose avec des aigles américains et le bustier de Wonder Woman, on sait ce qu'il est. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'à la base, les super-héros ont souvent été créés par des jeunes issus de populations immigrées et qu'il y a beaucoup plus un rôle social et que quand on parle de Spider-Man, ce n'est pas le porte-étendard de l'Amérique. Il n'a pas confiance dans le système américain. Il a des problèmes pour payer son loyer à la fin de l'année. Et finalement, Spider-Man ressemble sans doute plus à quelqu'un de la même couche sociale en France qu'à un Américain aisé de l'autre côté de l'Atlantique.
Il y a d'ailleurs un super-héros qui a rendu son passeport américain pour devenir citoyen du monde.
Eh bien, c'était Superman. Voilà. Mais effectivement, l'identité secrète, pour moi, c'est le curseur qui sépare le héros classique, antique, du super-héros. On va dire que dans le 19e siècle, il y a beaucoup de proto-super-héros, de personnages masqués ou à super-pouvoirs qui apparaissaient dans les romans. D'ailleurs, Umberto Eco, lui, fait remonter Batman au comte de Monte Cristo. Et l'identité multiple...
Umberto Eco qui avait écrit de Superman au surhomme.
Tout à fait. Et l'identité multiple, elle a cette particularité d'installer une sorte d'ascenseur social, une sorte de problème de définition de la société. C'est-à-dire que Ulysse, effectivement, il se déguise quand il faut rentrer au pays et pour y conduire quelques personnes, mais c'est une ruse qui dure quelques temps et puis il a pas vocation de revenir dans son masque. Superman, il revient jouer un rôle inférieur. Le milliardaire passe pour quelqu'un d'une condition humble et il y a ce côté de Peter Parker qui échappe lui aussi à sa condition via le masque. Donc il y a vraiment quelque chose, un ressort, effectivement une envie de faire un peu sortir des classes, quoi. C'est quelque chose de particulier.
Alors Xavier Delcroix a évoqué les spectateurs ou les lecteurs des comics qui étaient plutôt des enfants ou des ados, mais
dans le temps maintenant.
Voilà, c'est ça, parce que j'allais y venir. En avril dernier, par exemple, TF1 programme Spider-Man 3. En même temps, France 2 en frontal programme Captain America. À eux deux, ils réalisent quasiment 10 millions de téléspectateurs un dimanche soir. Je doute que dans ces 10 millions, il n'y a eu que des enfants et des adolescents. Si on prend la saga des X-Men, c'est 17 millions au total de Français qui sont allés la voir. Il n'y a pas que les enfants qui s'intéressent, ni les ados qui s'intéressent, Thierry Rogel, aux super-héros.
Oui, mais enfin, les publics sont extrêmement larges. Alors, je voudrais d'abord aller dans le même sens que Xavier Fournier sur le fait que...
Vous ne voulez pas plutôt aller sur mon histoire de public qui s'intéresse aux super-héros ?
Non, mais d'accord, les deux. Je vais prendre les deux. Bon, alors on revient sur le public. Bon, les publics sont extrêmement larges. Ce n'est pas quelque chose de monolithique, le super-héros. Vous allez avoir effectivement...
Non, mais on sait ce que ça apporte à un enfant, la construction de l'individu et tout ça. On l'a énormément étudié. On ne sait pas du tout ce que ça apporte aux adultes. Moi, ce que j'aimerais comprendre, adulte va regarder un film de super-héros.
Tout dépend s'il va voir un film, s'il va lire un comic book. C'est pas le même. Je crois que c'est pas tout à fait le même public. Hein, celui qui va manger des pop-corns et celui qui va collectionner ou analyser ou lire précisément les comics. Par ailleurs, alors qu'est-ce qu'un adulte va y retrouver? Je crois qu'il faut... Là, c'est plutôt... je suis plutôt sur le domaine d'Olivier Delcroix, il me semble. Mais enfin, bon, si un adulte va regarder un film de super-héros, c'est un peu l'équivalent de genres qui ont disparu des années 60, qui étaient le péplum et qui étaient le western. Le western est un... Comme le péplum, d'ailleurs, sont deux films de genre qui se basent, qui sont sur des bases mythologiques, parce que le western, c'est quand même la construction des États-Unis. Là, il y a un caractère mythologique, alors je ne prends pas dans le sens fort du terme, bien sûr, mais un caractère presque de discours fondateur qu'on a dans les films de super-héros et qu'on va voir de manière presque caricaturale dans certains X-Men où on fait une uchronie, où par exemple, les X-Men sont complètement intégrés dans la crise des missiles de Cuba, par exemple. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc je pense qu'il y a ce côté-là.
Olivier Delcroix ?
Oui, c'est tout à fait juste. En fait, pourquoi les adultes vont voir des films de super-héros ? Parce qu'ils y retrouvent effectivement la mythologie développée par Hollywood depuis la naissance du cinéma, que ça soit dans le western, ça je rejoins tout à fait Thierry Rogel, le péplum, mais aussi le film de guerre. Captain America est une sorte de film de guerre. Quand il sort en 2010, on est vraiment dans une... Voilà, en fait, l'idée géniale de la Marvel, depuis qu'ils ont véritablement capitalisé sur les effets numériques et sur la sortie de leurs films de super-héros, c'est d'injecter différents univers de référence dans des films de super-héros. Le dernier en date, par exemple, qui va sortir là, en plein mois d'août, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et les Gardiens de la Galaxie, c'est des super-héros avec, mélangés, métissés avec le genre du space opéra. C'est-à-dire, globalement, le space opéra tel que George Lucas l'a établi dès 77, c'est la guerre des étoiles. Donc en fait, les films de super-héros sont vus par les adultes parce qu'ils y retrouvent quelque chose, effectivement, une nouvelle forme de mythologie moderne, agrémenté de ce qu'ils connaissent eux, c'est-à-dire le western, le film de les genres de films de guerre, les genres de films de péplum, gladiator, même l'heroic fantasy par exemple. On parlait d'Harry Potter tout à l'heure, la saga d'Harry Potter est typiquement de l'heroic fantasy. Et si vous voyez Thor, les deux films, l'un comment dirais-je fait par Kenneth Branagh et le deuxième réalisé par le producteur de Game of Thrones, on voit bien qu'en fait, Thor, c'est du super-héros métissé d'heroic fantasy. Donc en fait, c'est aussi ça qui intéresse, je pense, la Marvel et qui fascine à travers le monde les adultes.
Donc c'est embrasser toutes ces époques et embrasser les différentes époques et les différentes références que chacun d'entre nous peut avoir.
Tout à fait. Regardez, Les Gardiens de la Galaxie, c'est ni plus ni moins qu'un mélange entre La Grande Évasion, Les Sept Mercenaires, et un peu, j'allais dire qu'en fait, quelque part, vous prenez dans un grand shaker tous les films de Steve McQueen, les grands succès de Steve McQueen, La Tour Infernale, Les Sept Mercenaires et La Grande Évasion, vous y ajoutez un petit peu de Bullitt pour les poursuites en voiture, et hop, vous avez un film de super-héros idéal. Après, il suffit de déguiser Steve McQueen en tout ce que vous voulez, en lui rajoutant une cape, un masque et des collants, et vous avez le film de super-héros indépassable.
À ceci près que, puisque vous parlez de Steve McQueen, qu'aujourd'hui, quand une compagnie de cinéma décide de faire un film autour des super-héros, elle n'a plus besoin de stars, puisque le super-héros est en lui-même déjà identifié. Donc finalement, ça coûte un peu moins cher. Ou en tout cas, elle peut mettre tout le financement dans les effets spéciaux.
Totalement, oui. Ça, c'est le grand succès des films de super-héros, c'est qu'on peut faire maintenant des films qui vont devenir des blockbusters, ou ce qu'ils appellent maintenant des tentpoles, c'est une espèce de super-movies qui rentabilise sur un an tout le travail d'une année de production d'une major hollywoodienne sur des gens qui ne sont absolument pas connus, puisque de toute façon, on va leur mettre un masque sur la figure.
Pas besoin d'être connu. Mais est-ce qu'il y a quand même des bides absolus dans les films de super-héros ?
Il y en a beaucoup. Hein.
Allez-y.
Je sais pas, par exemple, moi j'en ai identifié un certain nombre dans le bouquin qui sont des films totalement regardables. Je pense à Judge Dredd, même
avec Sylvester Stallone.
Avec Sylvester Stallone, qui est quand même un truc irregardable aujourd'hui. Dans les films aux effets mécaniques dans les années 70-80, de toute façon, il y a très peu de grands films de super-héros. Le film de super-héros ne va en gros débuter qu'à partir de X-Men
les années 2000.
C'est-à-dire donc en fait les années 2000.
Xavier Fournier.
Les grands bides. Par exemple, le fantôme du Bengale en 96, c'est quand même une horreur ce truc.
Bon, mais depuis 2000, on fait mieux. Allez, d'accord. Xavier Fournier.
Non, juste pour dire, c'est vrai que moi j'entends souvent justement ce reproche, enfin peut-être pas ce reproche, mais cette définition en fait de l'acteur qui est réduit par l'usage du masque. Bon, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Le type qui incarne Dark Vador peut se trimballer dans des festivals de cinéma sans être dérangé parce que les gens lui passent à côté sans le calculer. Et il y a déjà ça, il y a déjà depuis des décennies une importance du rôle qui des fois surpasse l'acteur. James Bond, c'est le James Bond qui l'emporte sur l'acteur, c'est lui qui fait la star.
Bond qui n'est pas un super-héros mais classé quand même dans la catégorie des surhommes.
Non, mais leur définition, leur situation finalement est assez proche parce qu'on en arrive à un moment où beaucoup de gens consomment James Bond au cinéma sans forcément avoir vu ou lu les romans. D'ailleurs, on oublie souvent que c'est un personnage littéraire. Et là, il y a beaucoup de gens qui consomment des super-héros au cinéma sans forcément en connaître la forme première.
Sur le
c'est
site
vrai qu'il y a un parallèle. Hein.
Sur le site de France Inter, c'est le message qui nous arrive. Le super-héros est un personnage qui nous rassure quand on rentre du lycée ou du boulot et qu'on a 2 heures de devoir, sa chambre à ranger ou bien le ménage à faire, le repas du soir, la voiture à réparer, la peinture du salon à refaire. Le super-héros télévisé ou en comics nous conforte et nous fait relativiser nos tâches. On continue donc notre petit tour des super-héros, de ce que ça veut dire, de cet engouement pour les déguisements et les super-pouvoirs. Et on sera dans quelques instants au téléphone avec un homme qui a vu les super-héros. Il les a même photographiés, des super-héros ordinaires, des hommes, des femmes aussi, déguisés, qui font le bien autour d'eux. Ça se passe en vrai cette fois aux États-Unis et même en France. Et on en parle juste après ça. Ça, c'est Holly Cook, Looking for Real Love.
Participez et laissez-nous vos messages sur franceinter.fr, à la page de l'émission ou sur notre compte Twitter, @ledebatdemidi.
et des messages, il en arrive sur le site de franceinter.fr pour ce débat de midi consacré aujourd'hui aux super-héros. Le super-héros est un gage de productivité pour les travailleurs du monde entier qui ont un boulot peu reconnu à effectuer. En URSS, le super-héros s'appelait Stakhanov, Marvel et Stakhanovitz, nous dit cet auditeur. Trois invités pour en parler, Thierry Rogel, auteur de Sociologie des super-héros, Olivier Delcroix, auteur d'une encyclopédie consacrée aux super-héros au cinéma, et Xavier Fournier. On parlait justement pendant le disque de cette idée qu'en Russie, on trouvait assez peu de super-héros, et finalement, c'est vrai. Xavier Fournier.
Oui, c'est vrai. D'abord parce que les principales sources de super-héros sont plutôt situées à l'ouest et que jusqu'à la détente dans les années 70, on n'imaginait pas forcément les soviétiques sous un beau jour. Donc il y a beaucoup d'ennemis d'Iron Man ou de Thor qui sont d'odieux communistes avec des dents longues et des couteaux à la main. Et puis, une des choses qui ont changé la donne, c'est l'arrivée de Colossus dans une seconde génération de X-Men, donc Colossus qui est un personnage de en métal et qui donc incarne aussi une certaine
qui aurait
sa place. D'ailleurs, il y a une parodie, pendant deux épisodes, il devient un héros qui s'appelle le prolétaire. Mais juste pour le gag, Marvel a ensuite eu le souci de créer un peu des héros nationaux pour le reste du monde, y compris Vanguard, qui est un héros avec le marteau et la fossile. Et cette caricature leur pose des problèmes en ce moment parce que les BD de Marvel sont éditées aussi en Russie de nos jours et que les Russes s'offusquent de voir apparaître un personnage avec le marteau et la fossile. Donc ils ont quelques problèmes avec le gouvernement là-bas.
Je le disais avant le disque qu'on vient d'écouter, nous sommes aussi au téléphone avec Pierre-Élie de Pibrac. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez photographié des super-héros ordinaires, si on peut dire cela comme ça, aux États-Unis, enfin des gens qui enfilent un déguisement, qui se cachent derrière les masques. Et qu'est-ce qu'ils font exactement?
Alors, ce sont les Real Life Superheroes. Ce qu'ils cherchent, en fait, c'est à lutter un peu contre l'apathie. Ils ont une sorte de forte conscience sociale et ils cherchent à lutter contre l'exclusion sociale, la pauvreté, lutter contre la délinquance, la violence. Et pour ça, ils ont choisi, pour marquer un peu la singularité de leur action et soulever les problèmes de la société, de se déguiser, de se créer un costume, leur propre personnage. Et ça leur permet d'avoir une approche plus facile avec les gens et aussi de se donner un peu le courage. Le masque permet de se créer une nouvelle identité, donc de se donner du courage pour agir.
Est-ce que vous les avez vus sans les masques? Puisque les photos qu'on connaît de vous sont les super-héros avec masque.
Alors je les ai vus aussi sans les masques, j'avais pas le droit de les photographier sans les masques. Mais j'ai vu à quoi ils ressemblaient. Ils sont tous souvent de toutes les catégories sociales. Ils ont tous les âges. Hein. J'en ai rencontré des très jeunes, hein, dans les 10 ans, jusqu'à des plus âgés, dans les 70 ans. Et vraiment de toutes catégories sociales et dans toutes les États-Unis. C'était vraiment, ils étaient partout dans toutes les villes et ils font souvent des actions de proximité. Comme ça, ça leur permet d'être beaucoup plus actifs et d'avoir des relations beaucoup plus fortes avec les gens qu'ils aident. Et donc, ils se sont après rassemblés de manière nationale autour du phénomène des Real Life Superheroes. Et ce même phénomène arrive petit à petit dans différents pays. En Europe, ils sont en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne, en Angleterre, et maintenant aussi quelques-uns en France.
Il y en a en effet quelques-uns en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ils sont appelés les défenseurs de la France. Hein, et notamment, on a entendu, en tout cas, les médias ont relaté l'histoire d'Avaland qui était à Valenciennes pour aider, enfin qui s'était créé pour aider les SDF.
Oui. Alors, quand je suis parti aux États-Unis en 2010, j'avais pas entendu parler de super-héros en France. Par contre, depuis à peu près 2 ans, il y a en effet les défenseurs de la France, c'est un groupe qui s'est créé autour d'une vingtaine de super-héros, de real-life super-héros français, des super-héros de la vraie vie. Et j'en ai rencontré quelques-uns, comme Citizen French ou donc Avalon, qui était l'arpenteur à l'époque à Valenciennes. Et ils cherchent, eux, c'est plus la lutte contre la pauvreté et l'aide aux plus démunis, aux sans-abri. Ils font des rondes, de sortes de maraudes pour donner de la nourriture, les aider, leur parler, un peu de chaleur humaine, essayer de les comprendre, de voir comment ils peuvent les aider au quotidien pour que que ça soit moins difficile, que la vie dans la rue soit beaucoup moins difficile et leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés.
Pourquoi le faire sous forme de super-héros? Pourquoi pas simplement s'engager auprès d'associations?
Ça complète souvent les associations. Pour les Français, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui on a parlé un petit peu avec eux, mais surtout j'ai beaucoup développé le projet, ce phénomène aux États-Unis. Je me suis beaucoup posé la question. Et là, les Américains me disaient qu'ils travaillaient souvent aussi dans des associations dans leur vie un peu de civile de tous les jours. Donc c'est vraiment complémentaires et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être real life superheroes et effectuer, être dans des associations. Et surtout, en fait, ils cherchent à faire passer un message, et pour faire passer ce message, ils le font à travers le costume, parce que ça marque les esprits. Mais souvent, quand on leur demande « Oui, alors comment on peut vous aider ? Est-ce que nous aussi, on aimerait bien devenir Real Life Superheroes ?» Souvent, ils disent « Si vous voulez, vous n'avez pas besoin forcément de mettre un costume ou un masque, mais vous pouvez aider des associations parce que c'est la même chose. » Après, ce qu'ils cherchent, c'est à communiquer, à faire des actions ciblées qui sont visibles par le plus grand nombre à travers le costume, parce que voilà, ça marque les esprits. Donc c'est un peu ça va avec notre société en fait. On a besoin toujours de se démarquer pour qu'on fasse attention à soi et après aux gens qu'on aide et ainsi. Ils sont passés de 30 à plus de 500 en moins de 4-5 ans.
Ben merci Pierre-Olivier de Pibrac. On met évidemment un lien pour aller voir votre travail sur notre site, le travail Real Life Super Heroes, sur notre site Adou sur franceinter.fr. Merci d'avoir été avec nous au téléphone aujourd'hui. Alors, il y a évidemment ce côté qu'on peut que louer de ces super-héros qui s'engagent dans la vraie vie. En revanche, si on revient à nos super-héros à nous, il y a un vrai problème de représentation de la femme dans les super-héros. Elles sont assez peu nombreuses, les femmes super-héroïnes. Et les femmes qui sont représentées, qui ne sont pas super-héroïnes, elles ont soit le rôle de petite amie, soit le rôle de la gentille maman ou la gentille tata.
Mais il y a un problème de place de la femme dans la société. Il faut savoir par exemple qu'à Hollywood.
Oui, enfin, ça c'est un peu facile à dire.
Non, mais attendez, je vais juste finir. Je ne m'en satisfais pas, mais il faut savoir qu'à Hollywood, par exemple, je crois que dans le nombre d'auteurs de scénaristes d'Hollywood, je crois que il y a 12% de femmes. Dans les comics, on est chez les éditeurs de comics qui sont vraiment très ouverts là-dessus. 12%, c'est déjà un bon résultat. Longtemps, on a considéré que les comics, c'était quelque chose fait par les hommes, pour les hommes. Il ne fallait pas que les filles s'en approchent. Et ça a fait un peu, barrière. Si ce n'est que beaucoup de jeunes femmes connaissaient Wonder Woman par la série télé, par plein d'autres choses. Aujourd'hui, c'est une barrière qui est en train de fondre. D'ailleurs, les éditeurs eux-mêmes sont conscients de ça. Marvel et DC Comics, qui sont les deux plus gros éditeurs, commencent à mettre le turbo pour rattraper ce retard. Il y a vraiment beaucoup de séries qui apparaissent là-dessus et c'est pas un mal, c'est certain.
Alors les super-héros ont même le droit à une exposition, je le disais en préambule de l'émission, c'est au musée des arts ludiques. Le philosophe Olivier Pourriol avait participé à l'expo du musée et dans l'exposition il y a un texte qui cite Bachelard et la rêverie imaginaire et cette idée, la rêverie élémentaire pardon, et cette idée que finalement le super-héros participe aujourd'hui à enflammer un imaginaire qu'on a du mal à enflammer dans notre société contemporaine, Thierry Rogel.
Oui, surtout si on parle des films, à ce moment-là, il faut faire le lien. On a fait tout à l'heure le lien avec les peplums et les westerns qui ont disparu. Il faut faire le lien, je crois, avec la fantasy. Alors, vous avez parlé de Harry Potter. Moi, je pensais plutôt...
C'est son anniversaire.
Je pensais plutôt au Seigneur des Anneaux. Il y a une très grande proximité d'un point de vue imaginaire. Et j'indiquais... tout à l'heure, vous parliez de la science. Et je voudrais réindiquer une chose, c'est qu'il y a en fait relativement peu de science dans les super-héros. Qu'il y en a un petit peu, mais très très peu. Science qu'on craint, c'est vrai aussi, avec des accidents, mais souvent il y a de la magie. Hein. Beaucoup de super-héros ont des pouvoirs à base de magie, ou à base dont on ne sait rien. D'ailleurs, surfeur d'argent, on ne sait pas très bien ce que c'est. Quand c'est une base scientifique ou pseudo-scientifique, comme Iron Man, il peut se battre contre le mandarin qui lui a des bagues magiques, donc c'est... technique contre magie. Et vous parliez de Spider-Man. Spider-Man, ça n'est pas de la science. Il est piqué par une araignée radioactive. Il acquiert les pouvoirs d'une araignée. Ça n'est pas de la science. C'est de la magie au sens propre du terme. Le même entraîne le même. Et donc, on est tout à fait dans cet imaginaire. Et je crois que si on veut comprendre l'ampleur, le goût pour les films de super-héros, il faut le comprendre avec le goût pour les films de fantasy en général.
Mmh. Et peut-être de manière plus introspective, alors évidemment, il y a l'idée du dépassement de soi du super-héros. Il y a aussi l'idée du dépassement de soi avec la mythologie. On citait Ulysse en début d'émission. C'est pas forcément donc lié à la crise, mais c'est peut-être aussi permettre d'accepter que nous sommes finalement que des hommes, cette histoire de super-héros, Olivier Delcroix.
les super-héros sont une nouvelle forme de mythologie moderne. Hein. Et moi, je reviens aussi quand même à cette idée de patrie et de nation. Je pense qu'en fait, depuis la mondialisation, les figures héroïques nationales ont pâli hein, avec le phénomène de la globalisation. Et du coup, les idoles se sont éloignées. La nation, c'est vrai, est devenue un horizon dépassé. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, quand les films de super-héros sortent, ils rayonnent et ils ont du succès à travers le monde, que ce soit au Brésil, en Argentine, en Australie, au Chine, au Japon, en Corée. Enfin, bref, les super-héros forment une sorte de ils sont post-nationaux. Et c'est aussi ça, leur grande force. C'est qu'en fait, avec leur blason, leur costume, ils rallient tout un imaginaire qui est globalisé. Et donc, effectivement, quand les conflits rayonnent, quand la paranoïa liée au 11 septembre fait que les peuples se... on parlait de cette héroïne kurde, là, tout à l'heure, cette chanteuse kurde, vous voyez, elle, tout d'un coup, dès qu'il y a un conflit, la nation se resserre autour d'une figure héroïque sur laquelle on aime se rallier. Et les héros, les super-héros, avec ce mot super donc, qui vient du latin, qui veut dire au-dessus, hein, donc c'est au-dessus du héros. Les super-héros permettent à tous les peuples et à toutes les nations de se retrouver sur un blason, se rassembler.
En tout cas,
je parlais de valeurs unificatrices.
Ce n'est pas un super-héros qui est à la tête des ventes de bandes dessinées en France, encore que c'est Homer Simpson. Voilà, un autre type de super-héros. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Vous pourrez trouver la biographie de toute bibliographie de nos invités sur le site internet. Et puis nous, on se retrouve lundi après la pop culture. Lundi, on s'intéressera de la culture plus institutionnelle.